explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora, les Vainé, tu connais ?
Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
Sioux, Apache, Iroquois, Cheyenne, Comanche, on connaît ces noms, ils nous évoquent même des images, des arcs, des flèches, des tipis, des coiffes à plumes. Mais au-delà de ces clichés, que savons-nous vraiment de tous ces peuples, ces ethnies que l'on regroupe tous sous le nom d'Indiens d'Amérique et qui recouvrent pourtant une grande diversité? Quelle est leur histoire? Comment vivaient-ils avant que les Européens ne viennent s'approprier leur territoire? Et aujourd'hui, comment vivent-ils? Quel avenir se dessine pour eux? Cet après-midi, nous partons à la rencontre des peuples autochtones d'Amérique du Nord.
Les Indiens!
Sur France Inter.
Ils sont de la famille des Algonquins.
Daniel Fievé.
Sûrement des pieds noirs.
Le temps d'un bivouac.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Marie-Hélène Fraissé.
Bonjour Daniel.
Vous êtes grand reporter, productrice chez nos amis de France Culture, spécialiste des Amérindiens. Vous avez rencontré entre autres les Navajos, les Cheyennes, les Sioux. Vous êtes l'auteur de l'impensable rencontre chronique des sauvages, entre guillemets, de l'Amérique du Nord aux éditions Albin Michel. Votre dernier livre s'intitule L'Eldorado polaire de Martin Frobisher. Encore une histoire de rencontre avec des Européens et un peuple autochtone, mais dans le Grand Nord. Cette fois, chez les Inuits, on en parlera en fin d'émission. À 17h, je recevrai un homme que la marche a sauvé, Bernard Olivier, a passé 60 ans alors que son moral était au plus bas. Il s'est mis à marcher, d'abord sur le chemin de Compostelle, puis la route de la soie. Nous allons voir comment la marche a changé sa vie et celle de jeunes en difficulté que son association Seuil tente de réinsérer par la marche. Et puis en toute fin d'émission, Marine Mandrila et Louis Martin nous emmèneront à la découverte de la cuisine cambodgienne. Voilà pour le menu du jour. Cette émission est réalisée par Anne-Sophie Ladonne. Elle a été préparée par Hugo Struna et Sophie Vaux.
Qu'est-ce qui est arrivé ici, là? C'est ces maudits Apaches. Ils nous ont attaqué un kilomètre d'ici.
Les Apaches?
À la partie la plus étroite de la route.
Tu es sûr que c'était les Apaches?
Certains, je connais pas faire leur manière de crier. Bien sûr, c'était des Apaches.
Ça pourrait être des Indiens d'une autre tribu. Non, Silas a raison. Ça ne fait aucun doute.
Extrait de la vengeance des Apaches pour ouvrir ce bivouac. Alors là, on est en plein cliché, l'image hollywoodienne véhiculée dans toutes les têtes, l'image de ces Indiens qu'on va essayer de dépasser dans cette émission avec vous, Marie-Hélène Fraissé. On a souvent mal considéré ces Indiens.
Bah, on les considère mal parce que nous sommes en fait des envahisseurs. Donc il y a là une culpabilité qui habite la mémoire nord-américaine et c'est un vrai problème pour un certain nombre de Canadiens et d'Américains des États-Unis d'aborder cette question-là, parce que ça remet en question leur légitimité. Il y a des gens qui sont là depuis des milliers d'années qui ont été envahis et qui n'ont pas été décolonisés. Mmh. Donc, ils sont réduits maintenant à l'état de minorité à l'intérieur de leurs terres ancestrales. C'est un problème.
Alors, dès le début, l'un des premiers contacts avec les Européens, quand Christophe Colomb arrive, on passe vite de l'émerveillement à la coercition. J'ai noté quelques phrases dans votre livre, Marie-Hélène Fraissé. Christophe Colomb, débarquant aux Bahamas, note dans son journal la beauté, la sensibilité, la générosité de ses hôtes de l'île de Guanani. Mais immédiatement après, le lugubre projet que cela lui inspire. Ils n'ont pas d'armes, ils sont nus et n'ont aucune disposition pour la guerre. Ils sont très peureux et 1000 d'entre eux ne résisteraient pas à 3 hommes. Ainsi sont-ils faits pour être commandés et pour travailler. Voici ce qu'écrit Christophe Colomb juste après les avoir rencontrés.
Donc voilà le projet. Il trahit exactement ce qui se passe dans tous ses premiers contacts. Et ça sera le cas pour Frobisher chez les Inuits quand on en parlera tout à l'heure. Les Européens partent entre guillemets à la découverte d'autres peuples. Ils débarquent. Il y a des gens qui sont là depuis des millénaires, qui ont nommé le pays, qui ont de l'agriculture, qui donc sont en parfaite symbiose avec un territoire. Néanmoins, les Européens s'attribuent, d'une manière qui évidemment aujourd'hui est remise en cause a posteriori, s'attribuent ces territoires. Mmh. Et à aucun moment... Christophe Colomb, qui lui ne va pas aller en Amérique du Nord, mais tous vont fonctionner sur le même mode. Je suis chez moi parce que je suis chrétien, parce que je possède l'écriture et que donc j'ai mission de peupler le monde, d'investir le reste du monde. Mmh. Alors évidemment, en face, il y a des gens qui sont pas du tout de cet avis-là. Vous êtes dans votre jardin imaginé. Mmh. Vous êtes en train de, je sais pas, de vous reposer ou de cultiver votre potager. Vous voyez arriver donc des gens, des Chinois, qui arrivent, qui plantent un objet symbolique dans votre jardin et qui dit désormais ici ça s'appelle la nouvelle Pékin, la nouvelle Nankin. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Donc pour comprendre le point de vue amérindien, il faut vraiment renverser, si vous voulez, le regard et comprendre qu'il ne s'agit pas de découverte, qu'il s'agit de rencontre et que dans cette rencontre, il y a eu quand même une victime, quelqu'un qui a été maltraité, exproprié, ce sont les Indiens. Alors à partir de là, on va parfaire l'histoire. Mais l'Europe... a mis des siècles, et c'est même tout récemment, qu'on a commencé à revisiter ce scénario de la ouais. rencontre.
Alors, Kiné, vous le disiez, pas une découverte. D'ailleurs, avant Christophe Colomb, des gens étaient déjà venus rendre visite, rencontrer, ne serait-ce que les Vikings. Hein, on est à oui. 500 ans plus tôt que Christophe Colomb.
Oui, oui. Alors déjà, avant 1492, pour remonter, si vous voulez, progressivement, il y avait eu des pêcheurs ouais. Qui allaient pêcher la morue sur les bancs de Terre-Neuve, par exemple. Ils étaient portugais, ils étaient basques, ils étaient même anglais de Bristol, ils pêchaient, ils chassaient aussi les mammifères marins pour l'huile. Mmh. Donc l'arrivée des premiers explorateurs est une arrivée toujours qui est marquée, si vous voulez, historiquement, parce qu'elle est l'objet de chroniques, mais presque toujours, il y a eu des gens avant eux. La ouais. preuve, c'est que les premiers explorateurs, quand ils arrivent, voient se précipiter les autochtones, souvent pour faire du troc. Ouais. Donc, c'est qu'ils ont l'habitude de voir des gens. Seulement, les prédécesseurs, on ne les connaît pas, ça reste dans ouais. le flou. Alors, effectivement... Avant les Européens de l'époque de Colomb, pour le Nord, c'est un certain John Cabot. D'ailleurs, c'est pas Christophe Colomb mm-hmm. Qui débarque donc dans ce qui est actuellement le Canada. Avant, il y a eu effectivement les Vikings, dont on a maintenant trouvé des traces très nombreuses. Pendant longtemps, c'est resté un petit peu à l'état d'hypothèse. Mmh. On partait des sagas groenlandaises et il était question de rencontres vers l'ouest. Et un certain nombre de gens disaient, mais non, c'est une affabulation. Non, on a trouvé des sites vikings en Amérique du Nord. Et même maintenant, tout récemment, on a trouvé un site probablement viking qui est du côté du Cap Cod. Donc, ils sont descendus très loin le long de la côte. Cap Cod, c'est Nouvelle-Angleterre, voilà. Et puis avant eux, il y a même eu les Irlandais, qui dans leur navire, qui étaient aussi très performants, qui étaient des navires qu'on voit d'ailleurs encore aujourd'hui sur la côte ouest de l'Irlande, les coracles, mm-hmm. qui sont des navires gainés de cuir, qui étaient très efficaces. Les Irlandais, dans les années 500, par là, étaient présents en Amérique.
Et puis finalement, même avant eux, d'autres avaient découvert ces terres, puisqu'il a bien fallu qu'ils viennent.
Alors ils étaient venus par l'autre côté.
Les Indiens. Mais alors oui, ils d'où étaient venus viennent-ils par l'Asie. Les ancêtres des Indiens, d'où viennent-ils?
Alors il y a un très très grand chantier de recherche depuis de nombreuses années. Donc le scénario, chaque année, se remanie, si vous voulez. Il y a plusieurs bassins de population en Asie qui ont donné naissance aux peuples amérindiens. Et ce qui est passionnant, c'est que plus on travaille les sites archéologiques, les ADN, etc., plus ça recule dans le temps. Ouais. C'est-à-dire que les dernières datations en date, c'est quand même moins 40 000 installations, donc des populations en provenance d'Asie. Mmh. Il y a eu aussi, très probablement, des apports du Pacifique, direct par la mer, si vous voulez. Il n'y a pas eu que le passage par le détroit de Bering, qui est la voie traditionnelle. D'ailleurs, quand on va, ce que j'ai fait il y a quelques années, dans le détroit de Bering, on voit la côte de l'autre côté. Je veux dire, c'est la Manche, quoi, ouais. littéralement. Vous voyez, donc on peut y aller en kayak, par exemple. Un certain nombre l'ont fait. Donc ce passage s'est fait pendant des millénaires et avec des apports probablement transpacifique et peut-être d'autres. Alors il y a aussi une légende qui est assez amusante. On dit qu'un roi d'Afrique, un roi venu du Mali, aurait traversé l'Atlantique. Donc en tant que prédécesseur de Christophe Colomb, ouais. Mais pour l'instant ça reste l'état un peu mythique. Mais on aura peut-être des preuves. Ouais.
Ça n'a pas encore été prouvé, ça le sera peut-être un jour. En tout cas, vous nous l'avez dit, les Amérindiens sont des peuples colonisés qui n'ont jamais été décolonisés. D'ailleurs, pour eux, le Columbus Day, qui est le jour férié, qui célèbre, c'est tous les deuxièmes lundis d'octobre aux États-Unis, ça célèbre la découverte par Christophe Colomb, on l'a dit, la rencontre par Christophe Colomb des Amériques. Pour les Indiens, il n'y a rien à célébrer ce jour-là.
Well, today is Columbus Day.
En effet, aujourd'hui, c'est Columbus Day. C'est une fête nationale, un férié aux États-Unis. Mais pour nous, les Indiens, c'est un jour de deuil. Nous, les Navajos, nous ne célébrons pas Columbus Day parce que l'arrivée de Christophe Colomb, ça a été le début de la fin pour les Indiens en général. Donc, ce n'est pas une fête pour nous. Quand Christophe Colomb est arrivé, il a amené avec lui la maladie. Il a amené tout ce qu'il y avait de pire. Donc, on ne voit pas ça comme une fête à célébrer pour nous.
Un extrait de Grand Angle en 1993. C'est vous, Marie-Hélène Freissé, qui avez recueilli la parole de cet Indien Navajos qui nous explique très clairement que le Columbus Day, il ne fait rien comme fête.
Oui, bah oui, y a rien à célébrer pour eux, mais vous savez, c'est pareil pour nous. On parle de Guillaume le Conquérant, mmh. Et les Anglais l'appellent Guillaume l'Envahisseur.
Oui, c'est une question de point de vue. Vous êtes pris de passion pour aller rencontrer justement ces Indiens malmenés par l'histoire, malheur aux vaincus souvent dans ces histoires. Votre première rencontre, elle date de 1976, je crois. Vous êtes rendu où ?
Alors j'étais en Louisiane et ça s'est fait de manière un peu marginale parce qu'en fait mon sujet de reportage c'était les Cajuns, les Cadiens, c'est-à-dire ces Français qui parlent, c'est cette population d'origine française issue de ce qu'on appelle le grand dérangement, donc qui parle français en Louisiane, un drôle de français, pas toujours facile à comprendre. Et au milieu de ça, il y avait une minorité sous la minorité, c'était les Indiens francophones. Oui. Et j'ai rencontré la population qui se trouve autour de la ville de Houma et ce sont effectivement des Indiens Houma. Mmh. Et là, premier choc, donc je rencontre une très vieille Indienne, Madame Lucie Forêt, 113 ans, qui se balance sur son rocking chair et qui commence à me dire qu'elle est une vieille traiteuse, et elle connaît les plantes du bayou. Et c'était absolument, c'était un choc, quoi. Ouais. Et là, j'ai commencé à m'intéresser. J'avais fait des études, en fait, de langue anglaise et américaine, et j'étudiais aussi la société américaine. Et deux ans plus tard, je vais au Québec. Et là, je retrouve un peu le même phénomène en rencontrant les Indiens Innus qui sont sur la côte nord du Saint-Laurent au Québec. C'est-à-dire que j'étais partie voir surtout les Québécois, un certain nombre de créateurs comme Gaston Miron, Pierre Perrault, qui étaient un peu les artisans, vous savez, de la révolution tranquille, de la fierté québécoise. Et je découvre la population autochtone, ancestrale, qui est amérindienne et qui parle le français puisqu'elle a été colonisée, mais quelque part qui dérange un peu les Québécois, même s'ils ont travaillé ensemble pour aller chercher les fourrures. C'était un peu le peuple soumis par les Québécois. Et là commence une enquête absolument passionnante. Je rencontre des vieux coureurs de bois, des chasseurs de loups, des gens d'ailleurs dont la langue était tellement difficile à comprendre qu'il a fallu qu'on fasse de la surimpression en français standard parce que on ne les comprenait pas. Alors, très grande émotion, je rencontre quelqu'un qui aujourd'hui est connu comme écrivain, elle était encore toute jeune à l'époque, Joséphine Bacon, qui est une grande écrivaine innue et qui m'explique sa naissance dans le bois, comment sa mère, à la manière traditionnelle, est partie dans le bois, accouchée d'elle, accompagnée de sa sœur. Je rencontre donc une série de gens. Je commets des erreurs grossières parce que je n'avais pas le savoir-faire relationnel, si vous voulez.
Quel type d'erreur grossière vous commettez ?
Alors, j'arrive dans une réserve qui s'appelle Betsiamitz. Je suis hébergée par une dame qui était la veuve de l'ancien chef de la réserve et j'arrive comme une idiote avec un pack de bière pour être convivial. Or, le problème, c'était justement la surconsommation de bière. Et dans cette famille, cette dame luttait pour que justement il n'y ait pas trop d'alcoolisation. Et j'arrive, voilà. Ouais. Alors, on m'a fait comprendre que voilà, j'avais tout faux. Ouais. Et bon, on commet des erreurs et on arrive aussi toujours, quand on est européen, un peu inconsciemment, en pays conquis. Donc, il faut vraiment faire son autocritique et on l'a fait parce qu'on vous envoie des remarques, gentilles d'ailleurs, mais quand même, qui disent bien que vous savez pas vous comporter.
Alors, vous allez y retourner pendant près de 40 ans à la rencontre de ces tribus, de ces ethnies qui sont très nombreuses. On va voir dans la suite de cette émission qu'il y a une grande diversité de tribus que l'on appelle les Indiens, un peu injustement, en Amérique. Vous allez donc nous raconter leur diversité, Marie-Hélène Freissé, leur histoire et leur situation actuelle. Nous sommes en direct et pour nous adresser un message ou une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Et tout de suite, on écoute une chanteuse iroquoise pour Afé sur France Inter.
Makchi tambui an pidi, makchi tambui kan spewa gebi man piwa hoka yilnong da honda di kai dai ki weme gi dai tan kaya yamuni e wajitse kaya yamuni e wajitse.
C'est le programmateur musical du Temps d'un Bivouac, Djoubaka, qui nous propose le chant de cette chanteuse iroquoise pour Afé, qui chantait Makchik sur France Inter.
Mes frères, j'ai entendu beaucoup de beaux discours de la part de nos pères les Blancs. Quand le premier Blanc arriva par-delà les mers, il n'était qu'un petit blanc, vraiment tout petit. Il avait peine à marcher après être resté si longtemps dans son grand bateau. Il supplia qu'on l'aide à allumer un feu. Mais quand l'homme blanc se fut réchauffé au feu des Indiens et qu'il eut mangé la bouillie de maïs qu'on lui avait offerte, il se mit à grandir et grandir. D'un seul pas, il enjamba les montagnes et ses pieds recouvraient les plaines et les vallées. Une de ses mains touchait la mer de l'Est et l'autre la mer de l'Ouest. Sa tête reposait sur la lune. Alors, D'une voix tonitruante, il dit qu'il était notre père à tous, qu'il aimait d'amour ses petits-enfants rouges, et il ajouta « Allez donc un peu plus loin, il se pourrait bien que je vous écrase. »
Reproduction d'un discours d'un chef indien de la tribu Cree du début du XXe siècle, Marilyn Frayser, auteur de l'impensable rencontre chez Albin Michel. Les Européens ont repoussé toujours plus loin ces tribus qu'ils rencontraient. Vous, les Cree, vous les avez rencontrés?
Oui, je les ai rencontrés à plusieurs reprises du côté du Manitoba. Et puis, justement, l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu m'attacher à cette question amérindienne, c'est justement à travers une rencontre avec quelqu'un qui est aujourd'hui très connu au Canada, mais qui était tout jeune à l'époque. Il s'appelle Roméo Saganach. Il est Cree. Il est d'une famille de Waskaganish, qui est donc une famille au bord de la baie d'Hudson. Et il vient à Paris. On s'était rencontrés, il vient chez moi et je lui fais une interview. Et je lui demande de me raconter son enfance. Et il éclate en sanglots. Pourquoi ? Parce qu'il m'a raconté comment il a été arraché à ses parents pour aller au pensionnat. Ses parents avaient réussi à cacher quelques-uns de ses frères et sœurs, mais lui a été embarqué. Et il n'a plus vu ses parents pendant plusieurs années. Il n'a même pas pu retourner chez lui pour l'enterrement de son père. Il me parle de ça, il me le raconte. Et au milieu de mon salon, chez moi, sur mon canapé, il éclate en sanglots. Bon. Aujourd'hui, Roméo Saganach est devenu un homme politique très important. C'est une autorité au Canada. Mais voilà, il y a cette blessure au départ. Ce sont ces terribles pensionnats avec ces missionnaires qui... Les enfants n'étaient pas toujours très maltraités, mais ils étaient souvent maltraités. Ouais. Et de toute façon, ça partait de cette idée qu'il fallait les éduquer pour les amener à notre mode de vie, notre mode de pensée, notre relation au monde, qui était forcément supérieur. On n'a pas pris le temps qu'il fallait pour négocier, pour travailler dans la durée. Donc il y a eu des histoires de vie brisée. Roméo Saganach a surmonté ça, mais je lisais ce matin en revoyant son parcours que tout député qu'il soit, représentant des nations indiennes, il s'est arrêté pendant, et il le déclare sur son site, pendant plus d'un an pour se désalcooliser, parce que ces blessures-là, elles restent.
Il y a des blessures qu'on ne soigne jamais vraiment. Lui, il est Cree, cet homme que vous décrivez. Cree, donc, c'est une des tribus indiennes. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, évidemment, on ne va pas pouvoir tous les énumérer, mais faisons un petit aperçu un peu dans l'ordre où on les a rencontrés, en partant de l'Est, puis les plaines centrales, et en arrivant à l'autre rive ouest des États-Unis aujourd'hui. Alors, sur la côte Est, ce sont les Iroquois que l'on rencontre.
Alors,
par exemple,
au nord, voilà. C'est-à-dire, vous avez au nord, le long de la côte Est, le grand bassin des populations algonquiennes. Donc, il y a beaucoup de tribus très différentes. Les Innus en font partie. Et puis, il y a leurs grands rivaux ennemis, que sont les Iroquois. Et là, on a une population extrêmement structurée, avec une société extrêmement complexe, qui d'ailleurs politiquement a fourni quelques modèles lors de la création de la démocratie américaine. Ce sont des sociétés du consensus aussi. Par exemple, les Amérindiens comprennent très très mal notre mode de scrutin majoritaire, parce que l'éloquence, la persuasion chez eux joue un rôle très important, et je pense qu'on aurait aussi peut-être quelques exemples à tirer de ça. Donc les Iroquois sont des cultivateurs, sont des sociétés complexes, et ce sont traditionnellement sont été les ennemis des Français, parce qu'en fait c'était les rivaux des Français. Ils étaient tellement agissants et intelligents et important en nombre aussi. Alors après, quand on va vers l'intérieur du pays...
Alors, restons un petit peu encore avec les Iroquois. Je crois qu'ils étaient aussi... Ils ont massacré, il y a eu des guerres très importantes avec les Hurons. Les Hurons Wendat.
Oui, sauf que les Hurons sont de la même origine, et tout ça a été un petit peu instrumentalisé par les Français. Parce que quand les Européens arrivaient, ils avaient toujours la même stratégie. Ils rencontraient une première population et pour pénétrer à l'intérieur du territoire, il lui donnait des privilèges et il l'instrumentalisait en quelque sorte contre ceux qu'ils allaient rencontrer. Donc ça a été un peu le principe du divisé pour régner. Et il s'est trouvé que les Iroquois ont été plutôt du côté hollandais puis anglais et les Algonquins, pour faire très très là, du côté français. Ouais. Donc ça a donné après des guerres intertribales extrêmement violentes.
Ce qui explique qu'aujourd'hui les Hurons parlent justement français, mais ils restent quand même très attachés à leur culture qui est présente jusque dans la toponymie locale.
Lorsque vous dites Canada, c'est un mot huron. Lorsque vous dites Toronto, c'est un mot huron. Ottawa, c'est un mot huron. Et il y en a partout, dans les montagnes, les rivières, les cours d'eau. Ce sont tous des mots hurons.
Nous ne reconnaissons pas les frontières établies par les Européens. Nous avons la vision d'une terre qui a son esprit, qui a un corps et qui a son intelligence et qui n'appartient pas aux humains de découper et de remodeler selon leurs intérêts.
Notre culture, elle est dans l'âme, elle est dans notre sang, c'est pas parce que je parle français que je suis pas une Amérindienne, je dis toujours ce que je suis.
Les Hurons, alors c'est une généralité, mais quand même, il y en a beaucoup qui sont intégrés, qui sont entrepreneurs aujourd'hui. Oui. Ils sont dans le monde occidental et pourtant encore attachés à leur culture.
Oui, je retrouve avec émotion la voix d'Éléonore Siwi, une grande dame donc du monde Huron-Wendat. Et la famille Siwi est une famille très forte, une famille d'intellectuels. Et d'ailleurs, l'un des Siwi a été l'un des premiers à écrire une auto-histoire amérindienne. Donc, un des premiers à renverser le regard, puisqu'aujourd'hui, vous savez, dans l'histoire de ces découvertes, entre guillemets, on respecte maintenant le point de vue de celui qui est le découvert. Ouais. Et donc, alors, les Hurons, c'est intéressant parce qu'ils ont plusieurs réserves, dont une qui est juste à côté de Québec, et ils jouent très très bien aussi sur le côté touristique. Et j'ai vu ça, alors, assez souvent, c'est assez amusant quand on va dans certaines réserves, c'est-à-dire on est en interview, et puis arrivent des touristes, et alors là, on enfile le costume traditionnel et on donne le spectacle. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'y croit pas aussi, je veux dire.
Mais ça veut dire que parfois vous avez eu ce sentiment d'être un peu manipulé, de voir qu'ils jouaient aussi un petit peu avec un folklore.
Oui, forcément. Et puis ils avaient un message à faire passer qui était un message politique, puisqu'il y a quand même un désir chez pratiquement toutes les communautés amérindiennes de regagner du terrain, de regagner de l'autonomie. Ouais. Et donc les journalistes, d'où qu'ils viennent, sont des aides potentielles.
Oui, ils ont appris à se battre avec les armes de leur époque, évidemment. Allez, on avance un petit peu, on arrive dans les grandes plaines. Alors là, ce sont les Indiens un peu tels qu'on se les imagine.
Alors là, c'est le bison. Oui. Il y a toutes ces grandes cultures de l'Ouest. Les cris, d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure, en font partie. Il y a ces immenses troupeaux de bisons qui vont être presque totalement détruits au 19e siècle, mais qui étaient essentiels aussi à la survie des tribus, puisque on utilisait tout dans cet animal pour la nourriture, le vêtement, l'habitat. Donc c'était des sociétés qui vivaient en symbiose. Alors c'est assez tard que les Européens vont pénétrer au fin fond des plaines. C'est pour ça que la conquête de l'Ouest ne se fait finalement qu'au 19e siècle, alors que les Européens sont déjà là depuis 3 siècles.
C'est là qu'on rencontre les Cheyennes, les Sioux, mais toutes ces tribus, avant que les Européens ne viennent faire tout ce bouleversement et ce chambardement, elles communiquent entre elles, elles se font la guerre, elles coexistent.
Absolument.
Comment ça se passe?
Comme tout le monde, comme l'Europe. On se fait la guerre, on marie les enfants de tribu à tribu, on signe des accords. Et ce qui se passe, et qui est très caractéristique, et c'est ce que je racontais dans l'impensable rencontre, donc, c'est que les Indiens voient arriver les Européens en se disant « qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir ?» comme surcroît de force par rapport aux populations. Donc, ils accueillent avec beaucoup de plaisir les objets qui leur donnent une certaine supériorité et qu'ils pourront négocier, comme les couteaux, les objets de métal. Ça leur donne un atout avec les populations, auprès des populations avec lesquelles ils sont déjà en commerce. Donc, les Européens arrivent dans un monde déjà extrêmement complexe avec des réseaux de commerce qui courent sur tout le continent. Tout le continent est émaillé de pistes d'échanges.
Sauf qu'aujourd'hui, les descendants de ces populations, Cheyennes, Sioux, ils sont terrassés par la misère, par la tentation aussi du trafic pour s'en sortir. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un Sioux.
Regarde ma fille, mon bébé, c'est ma petite dernière. Il faut bien que je la nourrisse. Alors tu sais quoi? S'ils ne veulent pas me donner un boulot, ici à Pine Ridge, eh bien moi je vais faire du trafic. Je vais vendre de l'herbe. Je vais vendre de la cocaïne ou des faux papiers. Je vais faire n'importe quoi pour faire de l'argent. Parce que tu sais quoi? Il n'y a pas de boulot pour nous, ici en ville. Tu vois, si c'était un vrai flingue, sa place serait là, sur ma tête. Alors voilà, j'ai cette bière d'un côté et ce flingue de l'autre. Qu'est-ce que je dois faire?
Troisième partie.
Extrait du documentaire Les Oubliés de l'Amérique. Marie-Hélène Freissé, ils sont touchés plus que le reste de la population, ces Indiens, par la misère, par le trafic, par la tentation de la délinquance pour s'en sortir.
Ce sont des populations qui d'abord ont subi un dépeuplement énorme, parce que l'arrivée des Européens, ça a été aussi synonyme de maladies qui ont fait des ravages, et ça, on a pris vraiment l'ampleur, on a mesuré le drame des épidémies il y a une trentaine d'années à travers un certain nombre d'études. Donc déjà, ce sont des populations décimées. Mmh. Et on a des chroniques anciennes, les chroniques des missionnaires, par exemple, jésuites, en Nouvelle-France, ils sont dans un village, ils reviennent 10 ans plus tard, il y a une personne là où il y en avait 10. Donc, population déstructurée. Ensuite, population spoliée, déplacée de force. Tout ça, ça met après plusieurs générations à se remettre en place. Vous voyez, ce sont des populations dont on a abusé.
On poursuit notre voyage à la découverte des peuples autochtones d'Amérique du Nord, leur combat, leur situation actuelle et leur avenir. Le temps d'un bivouac avec Marie-Hélène Freissé sur France Inter. Sinn Kane chante téléphone dans le temps d'un bivouac sur France Inter.
Bonjour, général. Giovanni Martini, ordonnance aujourd'hui. Les éclaireurs, ils disent que c'est possible de voir le village.
Beaucoup, beaucoup, Otacio.
Bon, je crois qu'on les écrasera tous en un seul jour.
Où se trouvent ces hostiles?
Là-bas, à l'ouest de l'horizon, monsieur. Au pied de la petite falaise, c'est la vallée de la Little Big Horn. Le village est là.
Sergent-major! Rassemblement! Faites sonner l'appel des officiers!
Sonnez le rassemblement!
Un extrait du film Little Big Horn, qui est aussi le nom d'une célèbre bataille qui opposa les Anglais à une coalition de Sioux, et de Cheyenne, j'ai fusionné les deux, en 1876. Que s'est-il passé exactement lors de cette bataille, Marie-Hélène Frayssé?
Ça a été une bataille très sanglante. Le général Custer y est mort. Et il faut dire que les Crocs étaient les alliés de Custer. Vous voyez,
on divise pour mieux régner.
Et évidemment, il y a une manière très différente aujourd'hui de raconter cette bataille de Little Big Horn, qui était considérée comme une catastrophe nationale du point de vue blanc, mais qui était considérée comme une grande victoire par les Indiens.
Ils ont gagné, les Indiens, cette bataille.
Et c'est un site très très émouvant d'ailleurs, parce qu'à l'endroit où les soldats de Custer sont tombés, il y a des pierres tombales. Et en même temps, bon, quand on parle avec les communautés avoisinantes, et notamment Pine Ridge n'est pas très loin, on comprend aussi le point de vue amérindien. Je pense que ce qui est très important aujourd'hui, ce n'est pas de dire les Indiens, les bons Indiens, les merveilleux Indiens, c'est de comprendre ce qui est en jeu, comprendre l'abus qui a été perpétré, et sur quoi s'est bâtie l'Amérique, qui est une nation profondément brutale, qui s'est bâtie de cette manière-là.
Alors, comprendre cet abus, une question d'un de nos auditeurs qui arrive via Internet, Alain, votre invité a parlé d'annexion de terre, d'invasion, mais pourquoi ne pas appeler les choses par leur nom et parler du plus grand génocide des temps modernes et de sa non-reconnaissance par les autorités concernées. Est-ce que vous êtes d'accord avec...
Alors, le génocide est un terme qui signifie le projet d'éradication totale d'un groupe humain. Ce n'est pas ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Il y a eu des abus terribles, des dépossessions, des déplacements de population. Il y a eu rarement, dans des endroits très précis, des opérations génocidaires. Par exemple, en Californie, il y avait des groupes de chercheurs d'or ou de petits propriétaires terriens qui partaient faire des expéditions. On allait tuer de l'Indien. Et c'est quelque chose qu'on retrouvait au début du XXe siècle en Terre de Feu, dont parle Bruce Chatwin, d'ailleurs, dans ses livres. Mais il n'y a pas eu le grand plan d'éradication des Indiens. On pensait les convertir à la religion chrétienne, leur donner l'éducation, leur apprendre l'agriculture, pour leur bien. Les déplacer parce que, n'est-ce pas, ils étaient quand même sur des terres qu'ils utilisaient insuffisamment, alors que les Blancs étaient beaucoup plus compétents pour exploiter les mines, pratiquer une agriculture intensive, etc. Donc, on n'est pas dans l'idée qui se serait installé dès le début et qui serait poursuivi à travers les siècles de détruire les communautés indiennes, d'autant qu'on en avait besoin. Parce que pendant des siècles, les Européens ne pouvaient pénétrer à l'intérieur du territoire que à travers les informations des Indiens. Et on l'a entendu tout à l'heure, ils avaient besoin des savoir-faire indiens pour vivre, pour avoir du maïs, pour manger et pour comprendre où ils se trouvaient.
Et évidemment, les Indiens ne se sont pas laissés faire. Il y a des figures de la lutte, notamment, je pense, à Russell Mintz, qui s'est illustré dans la lutte pour sauvegarder le peuple indien, sa culture et son identité. Je vous propose d'entendre l'un de ses discours.
Today's world is too easy to be white.
C'est trop facile d'être blanc dans ce monde. Pour eux, ce qui compte, c'est l'argent et ce qu'ils appellent les plaisirs de la vie. Alors que pour nous, le plaisir, c'est cette vie qui nous entoure. La vie, c'est l'herbe qui pousse, ce sont nos proches. Les nuages, les oiseaux, toutes les choses vivantes qui font notre famille, c'est cela la beauté. L'homme blanc dit qu'il faut exploiter toutes ces choses pour en tirer du plaisir. C'est du pur égoïsme. Être indien, c'est se lever avec l'étoile du matin, à l'heure où le grand mystère nous donne le temps de prier, à l'heure où les oiseaux se taisent, où notre mère la Terre dort.
Russell Means, en 1976, ce militant Sioux a attiré l'attention du grand public sur les revendications des Indiens d'Amérique.
C'est l'un des fondateurs de l'American Indian Movement, qui a été extrêmement actif et qui était la suite de ce qui s'est passé à Alcatraz quand les Indiens ont saisi l'îlot d'Alcatraz, je crois que c'était en 69, en disant voilà, les Blancs l'ont obtenu pour une poignée de rien du tout, et bien nous on le reprend et on vous donne en échange une poignée de rien du tout. Et Russell Means, c'est un personnage, il nous a quittés il y a un ou deux ans.
Oui, en 2012, ça fait un peu plus que ça. 72 ans, et vous l'avez interviewé, vous l'avez rencontré.
Oui, alors j'ai eu une chance incroyable, j'étais à Pine Ridge en reportage, et j'arrive à la radio donc de Pine Ridge, donc des Sioux Lakota, et Russell Means était là, avec ses nattes, un type hyper beau en plus.
Il a joué, je vous interromps, dans le film Le Dernier des Mohicans, Russell Means.
Oui, c'était un acteur, tout à fait. Et c'était un homme absolument qui mêlait à son militantisme et qui était très articulé, un charme extraordinaire. Mmh. Et il a beaucoup fait pour faire avancer la cause indienne. L'American Indian Movement a été vraiment très en pointe dans les années 70-80. Mmh. Après, il y a eu des évolutions un peu différente dans le monde indien, c'est-à-dire que chaque tribu s'est organisée. Il n'y a pas eu vraiment de mouvement pan-indien, sauf qu'ils se retrouvent de temps en temps sur des cas critiques comme ce qui s'est passé avec le pipeline du Dakota, dont on parle beaucoup en ce moment, mais qui est quand même un échec, puisque le pipeline va passer.
Un oléoduc qu'on a voulu faire passer dans le Dakota du Nord, les Indiens s'y sont opposés, ils n'ont pas eu gain de cause, mais ils se sont battus.
Voilà, il faut voir aussi le contexte, c'est que le vrai problème, c'est l'eau. Et quand vous allez chez Navajo, par exemple, vous voyez à quel point c'est dramatique, parce que les réserves d'eau qui sont sous les réserves indiennes, les nappes phréatiques sont pompées d'une manière incroyable. Et c'est grave, parce que bientôt, tout le Southwest nord-américain va manquer d'eau. Et puis, outre le pipeline, l'oléoduc dont on parle beaucoup en ce moment, il y a quelque chose dont on ne parle pas du tout, c'est le désastre absolu dans les grandes plaines du nord du Canada. Donc, le gentil monsieur Trudeau, là-dessus, n'a pas l'air d'être quand même très, très désireux de faire marche arrière. Et c'est un véritable désastre. C'est des centaines de milliers d'hectares détruits. Mais parfois, il ne faut pas non plus faire un tableau trop naïf, parfois avec l'assentiment des Amérindiens. Mmh. J'ai rencontré des Amérindiens lors d'un voyage que j'ai fait en Alaska, un couple. Elle était enseignante et lui travaillait donc dans le pétrole. Et ils étaient très contents. Et on détruisait leur territoire.
Oui, c'est ça. Ils ne sont pas tous... il y a aussi des intérêts privés auxquels ils peuvent être sensibles, en tout cas certains d'entre eux. Aujourd'hui, en une minute, quelles sont les relations entre les Blancs américains et les Amérindiens ?
Elles sont très complexes, c'est une lutte incessante, il y a des procès innombrables, et ça fait des décennies que ça dure. Les traités n'ont pas été respectés, parce que aussi les Européens ont trompé les Indiens. On faisait des promesses aux Indiens de, par exemple, sauvegarder, ça a été le cas avec les Sioux, on sauvegardait les Black Hills, oui, mais jusqu'au jour où on a trouvé de l'or, et à ce moment-là, les traités, tout d'un coup, n'étaient plus valides. Donc il y a quand même un sentiment accumulé à travers les générations. Donc la méfiance s'est installée et le militantisme amérindien qui s'est trouvé de sérieux alliés dans le monde blanc, parce qu'on voit bien que les abus auxquels sont confrontés les Indiens sont les abus auxquels l'ensemble de la planète est confronté. Donc il y a une alliance objective entre un certain nombre de militants, même pas de l'écologie, d'un monde vivable et qui ne soit pas un monde d'exploitation forcenée, et les Indiens qui sont révélateurs, porteurs d'une sorte de sagesse.
Vous allez répondre dans un instant à quelques-unes des questions des auditeurs qui sont arrivées nombreuses sur la page du site du Temps d'un Bivouac. Et puis vous nous emmènerez aussi, comme promis, dans le Grand Nord pour parler de votre dernier livre, Marie-Hélène Freissé. Comme toi, c'était Clara Luciani dans Le Temps d'un bivouac sur France Inter. Un chant de guerre croze, une autre ethnie d'Indiens qu'on n'a pas eu le temps d'aborder dans cette émission avec vous, Marie-Hélène Freyssé, auteure de l'impensable rencontre chez Albin Michel. Alors on a reçu beaucoup de mails dans la boîte mail du Temps d'un bivouac. Et il y a Pierre qui nous dit qu'il n'y a pas que du négatif.
Absolument.
Aujourd'hui, certains font des études supérieures et sortent de leur réserve. Ils s'organisent pour promouvoir leur réserve, leur territoire, leur spécificité, leur histoire. Allez voir le fabuleux musée chez mes amis à Benakis, à Odanaka. À Odanak.
Oui, alors là, je suis très contente effectivement de ce témoignage, parce que il faut dire ça, dans les sociétés indiennes, que ça soit dans les réserves ou hors réserves, il y a des énergies absolument formidables qui sont à l'œuvre. Il y a un militantisme, il y a une créativité, il y a de grands écrivains actuellement qui ont émergé, il y a des cinéastes, et il y a une volonté de négocier avec donc le monde d'aujourd'hui, de penser les enjeux pas uniquement en fonction d'une rancune. Mmh. La rancune ne mène à rien. Ils savent très bien qu'il y a une partie de l'opinion blanche qui les soutient, donc je suis tout à fait d'accord. Bon, symboliquement, vous avez eu quand même la création du musée de l'Indien d'Amérique à Washington. D'accord, c'est symbolique, mais c'est important quand même. Ils sont sur Museum Row à Washington, ils sont visibles, je veux dire. Ils existent, ils ne sont plus une population en voie de disparition, puisqu'il y a eu toute une époque, et c'est pas si vieux que ça, c'était dans les années 1950, où on pensait qu'on allait purement et simplement intégrer les Indiens et supprimer toutes les traces de langues et de structures indiennes.
Mmh. Autre message, peut-être un peu clin d'œil de Jean-Paul, toujours via Internet. Modèle de la paix, ces calumets de la paix n'étaient-ils pas des occasions de pratiquer le consensus ? Ça a vraiment existé, les calumets de la paix ?
Le calumet de la paix, oui. Et ça veut dire que pour un Amérindien, voir arriver un étranger, et on a des leçons à prendre là-dessus, c'est quelque chose de positif. Il vient d'ailleurs, nous allons pouvoir échanger. Qu'allons-nous pouvoir échanger ? Donc, a priori, oui. Donc, un certain nombre d'explorateurs qui avaient compris ça, donc s'avançaient, le père Marquette qui a descendu le Mississippi le premier, donc en 1673, était à l'avant de son canot et il brandissait le calumet de la paix. Mmh. Donc, il y avait tous ces accords qui se faisaient autour du tabac, qui était la plante sacrée, et qui, évidemment, ont été très souvent trahis par les Blancs, il faut bien le dire. Mmh. Mais les choses avancent et je suis très heureuse de la question qui en parle.
Marie-Hélène Freyssé, comme promis, on termine avec votre dernier ouvrage. Là encore, c'est une histoire de rencontre de ces Européens qui arrivent avec des tribus autochtones et puis qui se pensent chez eux, qui s'accaparent des richesses sur le terrain. Ça s'appelle « L'Eldorado polaire » de Martin Frobisher. C'est paru chez Albin Michel. C'est quoi cette histoire ? Ce sont des Anglais ?
C'est un premier contact aussi, ça se passe à la Renaissance, ça se passe en 1576, 77, 78, il y a trois voyages, et c'est un explorateur anglais, un peu pirate, donc qui se rend en croyant trouver le passage du Nord-Ouest, il se rend en terre de Baffin, c'est-à-dire dans l'extrême nord du Canada, et là, il rencontre des Inuits. Alors, il ne sait pas ce que c'est, des Inuits. Il les regarde, ce sont des sauvages, pour lui, entre guillemets. On les appelle toujours sauvages, puisqu'ils vivent dans la nature, et ils ne sont pas chrétiens, etc. Et c'est un contact qui est très révélateur, donc, de cette brutalité, puisque dès le premier voyage, on se saisit d'un autochtone, d'un Inuit, donc ce ne sont pas des Amérindiens, les Inuits, c'est un autre bassin de population, mais ce sont des autochtones de l'Amérique, ils sont là depuis des milliers d'années. Eh bien, on se saisit de quelqu'un, et on fera pareil au deuxième voyage, qu'on ramène littéralement comme une comme on rapporterait une plante, donc
échantillon de la population.
Un échantillon de population. Pour montrer qu'on y est allé, et pour amuser les grands du royaume. Et au deuxième voyage, ce qui est extraordinaire, c'est que il repart parce que il avait rapporté une pierre et les alchimistes et chimistes de Londres, on est à la Renaissance, les sciences minéralogiques sont pas encore très au point, croient avoir détecté de l'or dans cette pierre. Alors là, on commence à monter une deuxième expédition.
Là, c'est la ruée vers l'or.
Et c'est une véritable ruée vers l'or dans le Grand Nord qui va être encore plus brutale au deuxième voyage. Et alors, je ne veux pas dévoiler la suite de l'histoire, mais la reine Élisabeth, la grande Élisabeth Ière, est tout s'enthousiasme pour ce projet dans des proportions phénoménales, puisque au troisième voyage, on va monter le plus grand voyage maritime qui ait jamais été organisé en direction de l'Arctique. Donc, c'est une histoire formidable.
On ne raconte pas la suite, mais on peut dire qu'il va y avoir des rebondissements, des déconvenues, et que voilà, tout le monde n'est pas récompensé par sa cupidité dans cette histoire. Ça s'intitule L'Eldorado polaire de Martin Frobisher. C'est paru chez Albin Michel et c'est signé Marie-Hélène Freisset. Vous l'avez compris, vous êtes allée de très nombreuses fois dans ces zones-là pour enquêter et pour raconter cette histoire.
Oui, je suis allée beaucoup dans tout le continent nord-américain. Je suis allée aussi chez les Inuits au Groenland où j'ai séjourné assez longuement puisque j'étais aussi grand reporter pour le magazine Géo. Et à chaque fois, ce sont des populations, je veux dire, qui se sont révélées extrêmement accueillante. Et ce que j'aime beaucoup dans le Nord particulièrement, c'est qu'il y a peu de gens et l'accueil, la rencontre est toujours importante. Un être humain, c'est rare et donc on entame un vrai dialogue.
Je n'ai pas besoin de vous présenter la personne qui s'est installée en face de vous, Marie-Hélène Freisset. Vous le connaissez bien, il s'appelle Bernard Olivier, écrivain et grand marcheur. Bonjour Bernard Olivier.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous accueillir. Je crois que vous vous connaissez.
Oui.
Vous l'appréciez particulièrement.
J'ai eu l'honneur d'inviter plusieurs fois Bernard Olivier dans mes émissions. Et Bernard, ce que vous avez fait donc avec Seuil, donc emmener, marcher donc des jeunes en rupture de quasiment tout et les reconstruire à travers la marche, c'est un boulot absolument formidable.
Ah voilà, alors déjà vous avez conquis notre invité de la première heure. Je suis sûr que vous allez nous conquérir, Bernard Olivier. Alors vous, la marche, vous êtes tombé dessus finalement assez tard, après 60 ans.
Tout à fait. J'ai d'ailleurs raconté ça dans un livre qui s'appelle « La vie commence à 60 ans » parce que effectivement, avant, j'étais journaliste et donc voilà, et très sédentaire. Et puis à 60 ans, effectivement, étant très mal dans mes pompes, j'ai fait une très grosse dépression et finalement, j'ai décidé m'extraire pendant 3 mois de la vie quotidienne en partant marcher depuis Paris où j'habitais à l'époque jusqu'à Compostelle. Donc c'est 2300 kilomètres. Et j'ai découvert le bonheur de la marche, à quel point c'est riche. À quel point ça nous construit, ça nous reconstruit. Et je ne suis d'ailleurs pas le seul que la marche a sauvé comme ça. Effectivement, maintenant, une partie de mon travail consiste à sauver des gamins qui ont besoin qu'on leur tende la main à travers la marche.
Alors vous allez évidemment dans la deuxième heure nous raconter cette révélation en quelque sorte sur le chemin de Compostelle et puis une autre longue marche qui a suivi sur la route de la soie et enfin cette association du Seuil qui aide les jeunes en difficulté grâce à la marche. On verra si ça marche, justement. Vous êtes allé les revoir 10 ans après, ces jeunes. Vous racontez ça dans votre dernier ouvrage, Marche et invente ta vie. On verra comment ça se passe pour ces jeunes que vous avez emmenés sur les routes. Un grand merci à vous, Marie-Hélène Freissé.
Merci, Daniel.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'impensable rencontre chronique des sauvages, entre guillemets, de l'Amérique du Nord, chez Albin Michel. Et puis, L'Eldorado polaire de Martin Frobisher, aussi chez Albin Michel. Merci à vous.